Chapitre 25. Qui m'aime, aime mon chien. Nos lecteurs seront charmés d'apprendre que Lord de la Cour trouva les moyens de prouver que la lettre anonyme avait été envoyée par Jean Fort. La justice s'empara de cet infâme calomniateur. Pendant ce temps, Mistress Freke payait par d'horribles souffrances le prix de son acharnement à vouloir nuire à Lady de la Cour. Mais laissons ces deux personnages, leur sort est digne d'eux. Revenons à M. Vincent. Animé par de nouvelles espérances, il voulut avancer le terme de ses désirs. Il pressa Belinda avec toute l'ardeur de son bouillant caractère. Cependant, malgré tout le bonheur de sa position présente, il n'était pas sans inquiétude. Le prochain retour de Clarence Hervé lui donnait des craintes. Il attendit donc avec la plus vive impatience le jour du départ pour Oakley Park et il ne fut content que lorsqu'il aperçut les voitures à la porte. Il fit connaître dans cette occasion tout son goût pour la magnificence. Son équipage était extrêmement brillant. Lady de la Cour fut très étonnée de ce que Clarence Hervé ne parut pas. Mais ne voulant pas retarder son départ, elle laissa un billet pour qu'on le lui remît à son arrivée. Elle espérait par là l'engager à venir immédiatement à Oakley Park. Les malles étaient déjà arrangées. Mariette était aussi affairée que si elle eût eu le monde entier emballé. Lord de la Cour examinait les harnais de ses chevaux suivant sa coutume. Hélène caressait le grand chien de M. Vincent et Belinda plaisantait M. Vincent sur le luxe, la pompe même qu'il mettait à ce voyage, quand un exprès arriva d'Oakley Park. C'était pour retarder leur voyage de quelques semaines. M. Percival et Lady Anne mandaient qu'ils s'étaient tout à coup trouvés obligés de s'absenter de chez eux. Lady de la Cour ne resta pas là pour relire le billet. Elle était transportée de ce retard. M. Vincent supportait avec peine cette fâcheuse contrariété. Belinda observa que le cœur était le même partout et qu'elle croyait que le sien serait le même à Twickenham qu'à Oakley Park. Elle ne lui donna effectivement aucune raison pour douter de sa résolution ou pour lui donner des regrets sur ce qu'elle n'était pas à portée d'être influencée par ses amis à lui. La crainte d'être entraînée par la vivacité de Lady de la Cour et l'extrême désir de se conduire honorablement avec M. Vincent, de lui prouver qu'elle ne se faisait point un jeu de son bonheur et qu'il n'était pas pour elle un pis-aller, furent des motifs qui agirent avec plus de force sur l'esprit de Belinda que tout ce qu'aurait pu dire Lady Anne Percival en faveur de M. Vincent. Le contraste de la franchise de celui-ci avec la vacillation et le mystère qui caractérisaient la conduite de Clarence Hervé, la presque certitude qu'elle avait que M. Hervé était attaché à une autre femme, la conviction que M. Vincent l'aimait sérieusement et qu'il possédait plusieurs bonnes qualités essentielles au bonheur, toutes ces pensées opéraient chaque jour davantage sur ses sentiments. Nous épargnerons au lecteur les détails des doutes et des scrupules d'une jeune personne et les alternatives d'espérance et de crainte d'un amant passionné. Il sera suffisant de dire que l'espoir de l'amant fut flatté par un demi-consentement et qu'il n'attendait plus que le moment où les flambeaux de la religion allumeraient ceux de l'hymen. Où donc était Clarence Hervé pendant tout ce temps? Lady de la Cour, hélas, ne pouvait pas le deviner. Elle espérait tous les jours le voir arriver et chaque jour son espoir était trompé. Elle avait fait beaucoup de recherches avec adresse et persévérance, mais rien ne pouvait éclaircir l'histoire mystérieuse de Virginie et de Mistress Ormond et son impatience de voir son amie Clarence augmentait à toute heure. Elle était combattue d'un côté par la bonne opinion qu'elle avait de lui et d'un autre côté par son affection pour Belinda. Elle ne voulut pas absolument abandonner Clarence et elle craignait cependant de nuire au bonheur de Belinda ou de l'offenser par des conseils imprudents et par un intérêt mal entendu. La seule chose qui ranimait l'espoir de Lady de la Cour fut l'assurance que lui donnait Miss Portman de ne se lier par aucune promesse ou par aucun engagement à M. Vincent quand même elle serait tout à fait décidée en sa faveur et qu'elle se regarderait, ainsi que lui, comme parfaitement libre jusqu'à ce qu'ils fussent mariés. Cette détermination s'accordait avec les principes de Lady Anne et de M. Percival. Et Lady de la Cour ne se lassait jamais d'exprimer directement ou indirectement son admiration pour la prudence et la convenance de leur doctrine. Mais l'observation de cette promesse devenait tous les jours plus difficile. et on voyait clairement qu'on faisait les préparatifs du mariage d'Auguste Vincent et de Bélin de Portman. Lady de la Cour rappelait la promesse qu'elle avait donnée de féliciter sincèrement le chevalier victorieux, et elle tâcha de se persuader, ainsi qu'à Bélinde, qu'elle était contente de son union avec M. Vincent. Cependant, elle se trouva moins que jamais bien disposée en faveur de ce dernier, depuis la découverte accidentelle qu'elle fit de sa liaison avec l'odieuse Mistress Luttridge. Hélène, un matin, était à jouer avec le grand chien de M. Vincent et qu'il aimait excessivement. Il s'appelait Tommy. « Ma chère Hélène, prenez garde, dit Lady de la Cour, ne confiez pas votre main à ce monstrueux animal. » « Je puis vous assurer, Milady, s'écria M. Vincent, que c'est le plus doux et le plus aimable chien qu'il y ait dans le monde. » « Sans aucun doute, dit Bélinde en souriant, puisqu'il vous appartient. Car, vous savez, M. Percival vous l'a souvent dit, que tout ce qui est sous votre protection devient excellent. » « Sérieusement, Lady de la Cour, vous ne devez pas du tout vous effrayer si Miss de la Cour se fie à cette pauvre bête. Pendant un mois entier, je le laissais à Mistress Luttridge à Harrogate. Elle le faisait toujours coucher dans sa chambre, et à présent, quand il la voit, il la caresse, il lui lèche les mains, aussi doucement que s'il était un petit chien à mettre sur les genoux. Hier encore, Mistress Luttridge m'assura qu'il était charmant. » Au nom de Mistress Luttridge, Lady de la Cour changea de couleur et garda le silence pendant quelques moments. M. Vincent, attribuant cette tristesse subite à la crainte qu'elle éprouvait de son chien, le conduisit hors de la chambre. « Ma chère Lady de la Cour, dit Bélinde, observant qu'elle avait toujours l'air contrariée, j'espère que votre antipathie pour Mistress Luttridge ne s'étend pas sur tous ceux qui la voient. » « Non !» s'écria Lady de la Cour, sortant tout à coup de sa rêverie et prenant un air dégagé. « J'ai fait un abandon général de toutes mes anciennes haines. Et l'odieuse Mistress Luttridge elle-même, quoiqu'elle m'ait bien vivement offensée, doit être comprise dans cette généreuse amnistie. Ainsi, vous ne devez rien craindre pour M. Vincent. Quoique je ne puisse en cela sympathiser avec lui, je lui pardonne d'aimer ce grand chien et cette petite femme. » D'autant plus que je le soupçonne d'aimer autant les tables de jeu que la société de la dame elle-même. Le jeu, grand Dieu, vous ne pouvez pas penser que M. Vincent... Je vous en prie, ma chère, n'ayez pas l'air si terriblement alarmée. Je vous assure que je n'ai pas voulu faire entendre qu'il avait un attachement sérieux ou déplacé pour les tables de jeu, mais seulement, peut-être, une légère inclination que sa passion pour vous a sans doute écartée. « Je lui demanderai dès que je le verrai, s'écria Bélinde, s'il aime le jeu. Je sais qu'il jouait beaucoup au billard à Oakley Park, mais seulement pour s'amuser. Les jeux d'adresse, dit M. Percival, ne peuvent pas se comparer aux jeux de hasard. » On peut cependant perdre beaucoup d'argent au billard, comme Lord de la Cour peut vous le dire. Mais je vous en supplie, ma chère, ne me dénoncez pas à M. Vincent. Il y a 10 à parier contre un que je me suis trompée. Ce vilain chien m'a mise de si mauvaise humeur. Mais c'est un doute que je veux dissiper. Vous serez satisfaite, Lord de la Cour prendra des informations pour moi. » Monsieur Vincent, après avoir enfermé son chien, rentra dans la chambre et assura poliment Lady de la Cour que Tommy ne viendrait plus l'importuner. Pour faire sa paix avec Monsieur Vincent et pour distraire Bélinde, Lady de la Cour fit tomber la conversation sur Juba. Elle parla d'une sorcière favorite d'Henriette Freke qui avait, disait-elle, tiré l'horoscope de Miss Portman. Elle parla du mariage de Juba et de la générosité de son maître envers lui. Ensuite, elle parla du contraste de son heureuse liberté avec l'esclavage des Africains. Et elle finit précisément, comme c'était son intention et comme M. Vincent pouvait le désirer, par donner des louanges à un poème appelé « Le nègre mourant » qu'il avait apporté la veille au soir à Bélinde et qu'il louait beaucoup. Cet éloge lui fut particulièrement agréable parce qu'il ne s'en rapportait pas à son propre jugement. Ses connaissances en littérature anglaise n'étaient pas aussi étendues que celles de Clarence Hervé. Lady de la Cour s'en était bien aperçue. M. Vincent fut donc très flatté dans cette occasion de voir que le goût de Lady de la Cour confirmait son jugement, et il consentit aussitôt à la demande qu'on lui fit de lire ce poème à Belinde. Ils étaient tous trois profondément pénétrés des charmes de la poésie quand ils furent tout à coup interrompus par l'arrivée de Clarence Hervé. Le livre s'échappa des mains de M. Vincent au moment qu'il entendit prononcer ce nom. Les yeux de Lady de la Cour étaient brillants de joie. Belinde rougit un peu, mais son visage conserva l'expression d'une dignité calme. M. Hervé paraissait d'abord s'être préparé à soutenir le rôle d'un philosophe. Mais à peine eut-il fait quelques pas dans la chambre que sa résolution l'abandonna. Il parut extrêmement touché de la bonté avec laquelle Lady de la Cour le recevait. Il fut frappé de la réserve des manières de Belinde, mais pas du tout surpris ni fâché de la présence de M. Vincent. Au contraire, il désira de lui être présenté avec l'air d'un homme qui voulait cultiver son amitié. Impatientée et tourmentée, Lady de la Cour, d'un ton mêlé de reproches et d'étonnement, s'écria « Quoique vous ne m'ayez pas fait l'honneur, Monsieur Hervé, de répondre à ma dernière lettre, je présume, d'après la manière dont vous désirez que je vous présente à Monsieur Vincent, que vous l'avez reçue. » « Reçue ? Grand Dieu ! N'avez-vous pas eu ma réponse ?» s'écria Clarence d'une voix émue et avec l'air d'une extrême surprise. « Milady n'a donc pas reçu un paquet de lettres de moi ?»« Je n'ai reçu aucun paquet, je n'ai eu aucune lettre. »« Monsieur Vincent, faites-moi le plaisir de sonner !» s'écria Lady de la Cour avec impétuosité. « Je veux savoir dans l'instant même ce qu'elle est devenue. »« Vous avez dû penser, Milady !» Et comme il parlait, ses yeux se tournèrent volontairement sur Belinde. Qu'importe ce que j'ai pensé de vous, dit Lady de la Cour, à qui le seul regard qu'il avait jeté sur Belinde avait fait impression. Si j'ai été injuste envers vous, Clarence, dans le moment où j'étais fâchée, il faut que vous me pardonniez, car je vous assure que je vous rends bien justice dans d'autres moments. Est-il arrivé quelques lettres, quelques paquets pour moi ? Demanda-t-elle impatiemment au domestique qui entra. « Non, madame. » Monsieur Hervé se ressouvint alors qu'il avait adressé à la maison de ville de Lady de la Cour. Elle donna aussitôt des ordres pour qu'on allât les chercher. Mais à peine le domestique était-il parti qu'elle se tourna vers Monsieur Hervé, se mit à rire et lui dit « Il faut avouer que c'est un drôle de compliment que je fais à vous et à votre lettre. » Car certainement, vous parlez aussi bien que vous écrivez, et même mieux, je pense, quoique vous n'écriviez pas mal non plus. Mais vous pouvez me dire en deux mots ce qui, par écrit, composerait un volume. Laissez ce monsieur et cette demoiselle avec le nègre mourant, et laissez-moi entendre vos deux mots dans le cabinet de Lord de la Cour, je vous en prie, dit-elle, ouvrant une porte qui donnait dans sa chambre. Lord de la Cour ne sera pas jaloux, je vous le promets, s'il nous trouve en tête à tête. « Mais je ne veux pas vous contraindre. Vous avez l'air. »« J'ai l'air, dit M. Hervé, affectant de rire, de sentir l'impossibilité de mettre la moitié d'un volume en deux mots. C'est une longue histoire et... »« Et il faut que j'attende le paquet de lettres, que je le veuille ou non. »« Eh bien, soit, dit Lady de la Cour. » Frappée de l'extrême agitation qu'il paraissait éprouver, elle ne continua point à le plaisanter. Mais elle essaya aussitôt de reprendre la conversation générale. Elle eut encore recours au nègre mourant. Monsieur Vincent, à qui elle adressa la parole, lui dit « Quant à moi, je n'ai ni ne prétends avoir beaucoup plus de talent pour juger un ouvrage. Mais j'admire dans ce poème la force et l'énergie qu'il donne à la vertu. » Du poème, on passa facilement à l'auteur. Et Clarence Hervé, qui faisait des efforts sur lui-même pour se joindre à la conversation, observa que l'auteur de ce poème, M. D, prouvait bien que le génie de l'éloquence devait avoir sa source dans le cœur. Cicéron avait certainement raison, continua-t-il, s'adressant à M. Vincent, quand il définissait un bon orateur, d'exiger qu'il fût un homme vertueux. M. Vincent répliqua froidement « Cette définition excluait trop d'hommes d'un talent supérieur pour qu'on puisse l'admettre. »« Peut-être l'apparence de la vertu, dit Belinde, pourrait, dans plusieurs occasions, réussir aussi bien que la réalité. »« Oui, si cet homme est aussi bon acteur que M. Hervé, dit Lady de la Cour, et s'il sait faire accorder les actions avec les paroles et les discours avec les actions. » Belinde ne leva pas les yeux, pendant que l'aîné de la cour prononçait ces paroles. M. Vincent était, ou paraissait être si profondément occupé à chercher quelque chose dans le livre qu'il tenait à la main, qu'il pouvait bien ne prendre aucune part à la conversation. On garda le silence pendant quelques moments. Lady de la cour, qui était naturellement très vive et impatiente, surtout quand il s'agissait de prendre la défense de ses amis, vit avec chagrin, par la contenance de Bélaine, qu'elle n'avait pas oublié l'histoire de Virginie de Saint-Pierre. Et quoique Milady fût persuadée que le paquet de lettres éclairerait tout ce mystère, cependant, elle ne pouvait pas souffrir que, jusqu'à ce qu'elle en eût pris lecture, le pauvre Clarence fût injustement soupçonné. Elle voulut donc essayer un moyen de le juger. Il se présenta tout à coup à sa pensée. Elle rompit le silence et dit « Pour vous rendre justice, messieurs, il faut convenir que vous êtes tous de bien bonne compagnie ce matin. Monsieur Vincent est excusable parce qu'il est amoureux. Et Bélinde est excusable parce que... Monsieur Hervé, je vous en prie, aidez-moi à excuser l'indifférence de Miss Portman, car je suis inquiète, effrayée de découvrir la vérité. Mais pourquoi implorais-je votre secours ? Vous avez l'air tout à fait incapable de pouvoir vous excuser vous-même. Pas un mot. Allons, parcourez les lieux communs de la conversation, parlez de la mode, de la médisance, des duels, des morts, des mariages. Rien de tout cela ne vous convient. Inventez, ayez recours à votre imagination. Ne vous dit-elle rien ? Eh bien, parlez-moi des pensées des autres, puisque vous n'en avez aucune à vous. Allons, lisez-nous ce petit poème, monsieur Hervé, voulez-vous ? Il allait commencer aussitôt, mais Lady de la cour mit la main sur le livre et l'arrêta. Un moment, quoique je sois tyrannique, je ne veux pas être perfide. Je vous avertis donc que je vous ai imposé une tâche difficile et dangereuse. Si vous avez commis quelque faute impunie par la justice, voici quelques lignes que je vous défie de lire sans balbutier. Écoutez la préface. Milady commença comme il suit. Monsieur D conserva pendant toute sa vie ce qu'on devait attendre de son caractère, une grande horreur pour la séduction. Il lut quelques vers écrits par une jeune personne sur un événement de cette nature qui fut suivi d'une funeste catastrophe. La malheureuse jeune femme, victime de la perfidie de son amant, était morte de douleur et de honte. Comme M. D sympathisait avec les sentiments de cette jeune poète, il lui adressa les vers suivants. Lady de la cour s'arrêta et fixa les yeux sur Clarence Hervé. Lui, avec l'apparence de l'innocence, reçut le livre de ses mains sans hésitation et lut tout haut ce qu'elle lui indiqua. M. Hervé lut ses vers avec une énergie si naturelle et une expression si facile que Lady de la cour ne put s'empêcher de jeter sur Bélinde un regard triomphant qui semblait dire « Vous voyez que j'avais raison dans mon opinion sur Clarence. » La contenance de Bélinde exprimait ouvertement la satisfaction. Elle était charmée que M. Hervé parût digne de son estime, quoiqu'il ne pût avoir aucun droit à son amour. Ses manières envers lui furent conformes à sa façon de penser. Cette réserve qu'elle avait gardée aussi longtemps qu'elle avait eu des soupçons sur sa moralité se dissipa tout à fait et elle lui parla avec cette familiarité douce et aimable à laquelle un homme d'esprit ne peut se méprendre. Si M. Vincent s'était abandonné à ses propres observations, il aurait su la vérité. Mais il fut alarmé et trompé par l'expression imprudente de la joie de Lady de la cour et par les regards significatifs qu'elle lançait à son amie Miss Portman, et qui paraissaient être des regards d'une intelligence mutuelle. Il osait à peine lever les yeux du côté de sa maîtresse ou sur celui qu'il croyait être son rival préféré. Mais il les fixa avec inquiétude sur Lady de la cour et il examina sur son visage comme dans un miroir où tout ce qui se passait venait se peindre tour à tour. « Avez-vous joué aux échecs depuis que je ne vous ai vu ?» dit Lady de la cour à Clarence. « J'espère que vous n'oubliez pas que vous êtes mon chevalier. Quant à moi, je ne l'oublie pas, je vous assure, car je vous reconnais comme mon chevalier vis-à-vis de tout le monde, en public comme en particulier. N'est-il pas vrai, Bélinde ?» Un nuage épais obscurcit aussitôt le front de M. Vincent. Il n'écouta pas la réponse de Bélinde. Il fut saisi d'un transport de jalousie. Il jeta sur M. Hervé un regard plein de mépris et de rage. Et, après avoir dit quelques mots inintelligibles à Miss Portman et à Lady de la Cour, il sortit. Clarence Hervé, qui paraissait craindre de rester plus longtemps en présence de Belinda, sortit quelques minutes après. « Ma chère Belinda, s'écria aussitôt Lady de la Cour, que je suis contente qu'il soit parti. Je puis vous dire à présent tout le bien que je pense de lui. D'abord, Clarence Hervé vous aime. Je n'en fus jamais si persuadée qu'aujourd'hui. Que n'avons-nous reçu cette lettre plus tôt? Elle nous expliquera tout. Mais je ne demande aucune explication. Je n'ai besoin d'aucune lettre pour confirmer mon opinion, ma conviction. Il vous aime, je ne puis, je ne veux pas être trompée sur ce point. Il vous aime à la folie. » Il aime à la folie. Oui, certainement, j'aurais pu vous apprendre cette nouvelle il y a longtemps, s'écria la douairière Lady Boucher, qui était dans la chambre sans qu'on l'eût vue entrer, tant l'une était vivement occupée à parler et l'autre à écouter. Il aime beaucoup, répéta la douairière. Oui, et sans le cacher, je vous promets, Lady de la Cour. Se tournant ensuite vers Belinda, elle commença une phrase de compliment sur ce qu'on lui avait dit de son prochain mariage avec M. Vincent. « Je vous chagrine, je le vois, je sais qu'il est tout à fait contre l'usage de parler ainsi. Mais, Miss Portman, je suis une vieille connaissance, une ancienne amie et une vieille femme. Ainsi, j'espère que vous me pardonnerez. Je ne puis m'empêcher de dire que je me sens toute contente de ce que vous faites ce mariage, convenable sous tous les rapports et agréable de toute manière. C'est un charmant jeune homme à ce que j'ai entendu dire, Lady de la Cour. Je vois bien que c'est à vous qu'il faut que je parle, car je risquerai d'embarrasser beaucoup Miss Portman, ce que je ne désire pas du tout. C'est un charmant jeune homme, il a, dit-on, une fortune considérable aux Indes et un caractère distingué. Il a des parents connus et, par-dessus tout, il est passionnément amoureux. C'est tout simple. » Lady de la Cour demanda ce qu'il y avait de nouveau dans le monde. Elle savait que cette question occuperait agréablement la douairière. « Je suis ici, tout à fait hors du monde, mais puisque Lady Boucher a la bonté de venir me voir, nous apprendrons de la manière la plus certaine les secrets qui sont dignes de notre connaissance. » Eh bien, la première nouvelle que j'ai pour vous, c'est que Milord et Milady de la Cour sont absolument réconciliés et qu'ils forment le plus heureux couple qui existe. Tout cela est très vrai, répliqua Lady de la Cour. Vrai ? Répéta Lady Boucher. Mais ma chère Lady de la Cour, vous m'étonnez beaucoup. Parlez-vous sérieusement ? Y a-t-il jamais eu quelque chose de plus choquant ? J'ai contredit cette nouvelle partout où j'ai été, car j'étais convaincue que toute l'histoire était une invention. Les circonstances de la réconciliation peuvent bien ne pas être exactes, mais elle n'en est pas moins véritable. Milady, vous pouvez le croire, puisque vous l'entendez de ma bouche. C'est surprenant, je n'en reviens pas. Dieu soit loué. Mais certainement, Milady, vous plaisantez. Car vous n'avez pas du tout changé de manière, vous êtes toujours la même. Je n'aperçois aucune altération, je l'avoue. Et quelle altération, ma bonne Lady Boucher, comptiez-vous trouver ? Avez-vous cru que, pour avoir l'air d'une vertu exemplaire comme Lady Q, je ne parlerai plus que par sentence, en m'arrêtant une minute sur chaque mot ? Ou bien avez-vous cru que, dans l'espérance de servir d'exemple à la génération future, je ne ferai aucun mouvement de mon visage et que mes traits resteront immobiles, comme quelques-unes de ces pauvres dames d'antigues qui, après avoir bien peint leur visage pour embellir leur teint, sont forcées, pendant qu'elles font peau nouvelle, de rester assises sans parler ni remuer un seul muscle, de crainte qu'une ride ineffaçable n'en soit la conséquence. » Lady Boucher attendait impatiemment la fin de ce discours, car elle avait une autre nouvelle à débiter. « Eh bien, dit-elle, on ne sait plus ce qu'il faut croire ou réfuter. On fait tant de rapports si extraordinaires. Mais j'ai une autre nouvelle pour vous, sur laquelle vous pouvez compter. C'est un secret qui vaut la peine d'être connu, et je suis sûre que Milady et Miss Portman l'apprendront avec plaisir. Votre amie, Clarence Hervé, va se marier. »« Se marier ?» « Se marier ?» s'écria Lady de la Cour. « Vous pouvez, Milady, être aussi étonnée qu'il vous plaira, Vous ne pouvez pas l'être plus que moi quand je l'ai appris. » Clarence Hervé, Miss Portman, que nous regardions tous comme l'homme le moins disposé à se marier et surtout à faire un mariage dans ce genre-là. » Dans quel genre ? Ma chère Belinda, comment pouvez-vous tenir devant ce feu ? Dit Lady de la Cour, plaçant un écran adroitement pour cacher son visage aux yeux observateurs de la douairière. Je ne désire rien, je n'ai pas besoin d'un écran, je vous remercie, dit Belinda, le mettant de côté d'un air doux et composé. À présent, devinez celle qu'il va épouser, continua Lady Boucher. Qui devinez-vous, Miss Portman ? Je devine que c'est une femme aimable, d'après le caractère de M. Hervé, dit Belinda. Oh, sans doute, c'est une aimable femme. Toutes les femmes sont charmantes, comme le disent les journaux, quand elles vont se marier, répondit la douairière. Mais une aimable femme, cela ne signifie rien. Devinez encore, ma chère Belinda. Cherchez donc aussi Lady de la Cour, dit Belinda. Vous ne devinerez ni l'une ni l'autre d'ici au jour du jugement dernier, s'écria Lady Boucher. Je vous dirai donc que M. Hervé va se marier de la manière la plus étrange. C'est une fille que personne ne connaît et dont le père s'appelle Hartley. Il donne une fortune considérable à sa fille, il est vrai, mais personne n'aurait pu supposer que M. Hervé fît attention à la fortune. Réellement, on a de la peine à le croire. C'est si difficile à croire que je le regarde comme impossible, dit Lady de la Cour en riant. Vous pouvez en être assurée, ma chère Lady de la Cour, dit la douairière en accablant du poids de son bras celui de Lady de la Cour. Soyez certaine, ma chère, que ma nouvelle est certaine. Devinez de qui je la tiens. Volontiers. Mais d'abord, laissez-moi vous dire que j'ai vu M. Hervé il y a environ une demi-heure. Et je n'ai jamais vu d'homme avoir moins que lui l'air d'aller se marier. Vraiment ? Eh bien, j'ai entendu dire aussi que ce mariage ne lui plaisait pas. Mais quel malheur, puisque vous l'avez vu ce matin, que vous n'ayez pas appris de lui-même des détails. Au reste, qu'il ait l'air de ce qu'il voudra, ma nouvelle est parfaitement vraie. Devinez qui me l'a dit ? C'est Mistress Margaretha de la Cour. C'est chez elle que Clarence Hervé a rencontré, pour la première fois, ce monsieur Hartley, qui est le père de la jeune personne. Il y a eu une scène charmante et une histoire tout à fait romanesque au sujet de la rencontre imprévue qu'il fit de cette jeune fille dans une chaumière et du nom de Virginie qu'il lui a donné. Mais je ne sais rien de bien clair là-dessus. Au reste, il est bien certain que la jeune personne, comme son père l'a dit à Mistress de la Cour, est passionnément amoureuse de M. Hervé et ils vont être mariés tout de suite. Comptez là-dessus, vous verrez que mon information est juste. Dieu me pardonne, je me rappelle à présent que j'ai entendu dire que M. Hervé était un grand admirateur de Miss Portman. Votre information sur ce point, Milady, n'est point juste, je puis vous l'assurer de bonne part, dit Belinda. Vous n'avez pas, j'espère, la présomption d'appeler votre propre autorité la meilleure de toutes, dit Lady de la Cour. La curiosité de Lady Boucher, excitée sur un nouveau sujet, la détermina à tenir aussitôt ses yeux attachés sur Belinda. Mais cela ne lui servit à rien. Était-ce parce qu'elle n'avait pas la vue bonne, ou bien parce qu'il n'y avait rien à voir ? Pour résoudre cette question, elle prit sa lorgnette. Mais Lady de la Cour détourna son attention en s'écriant tout à coup « Ma chère Lady Boucher, quand vous retournerez en ville, envoyez-moi, je vous prie, de cette eau admirable pour les nerfs. » « Ah ah, je vous ai enfin converti !» dit la douairière, satisfaite de la gloire de cette conversion. « Adieu !» Admirez ma profonde connaissance sur l'esprit humain, ma chère Belinda, dit Lady de la Cour. À présent, elle ne parlera où elle va que de ma confiance dans la vertu de son eau et elle oubliera de faire une histoire ridicule sur ce qui m'est échappé imprudemment de l'admiration de Clarence Hervé pour vous. Belinda se levait pour sortir. Ne quittez pas la chambre, Belinda. J'ai mille choses à vous dire, ma chère. Excusez-moi pour le moment, ma chère Lady de la Cour. Je suis impatiente d'écrire quelques lignes à M. Vincent. Il est parti. Dans un transport de jalousie. J'en suis bien aise. Et moi, j'en suis fâchée, dit Belinda. surtout parce que cela me prouve qu'il a peu de confiance en moi et qu'il peut sentir de la jalousie sans raison. Je dois vous le dire, milady, que vous m'avez fait de la peine par la manière dont vous avez reçu M. Hervé. » Mon Dieu, ma chère, vous gâteriez tous les hommes de la terre. Vous n'agiriez pas plus follement si cet homme était votre mari. Seriez-vous mariée secrètement avec lui? Si vous ne l'êtes pas, pour moi, pour vous-même, pour M. Vincent, n'écrivez pas avant que nous sachions ce que contient le paquet de lettres de Clarence Hervé. Cela ne peut rien changer à ce que j'écrirai, dit Belinda. Eh bien, ma chère, écrivez tout ce qu'il vous plaira. J'espère seulement que vous n'enverrez pas votre lettre avant l'arrivée du paquet. Pardonnez-moi, je l'enverrai le plus tôt que je pourrai. Le plaisir de faire de la peine n'est pas de mon goût. Fin du tome 3.